Article tiré du Courrier international, publié le 28 avril 2016. Article de Chris Woolgar. W-O-O-L-G-A-R. Quand le monde médiéval prend sens. 15e siècle, Europe. Au Moyen-Âge, la quête sensorielle jouait un rôle presque mystique, allant jusqu'à influencer la réalité extérieure. En 1440, un prêtre Lollard, Richard Wyche, est brûlé vif à Londres pour hérésie. Ce mouvement de contestation religieuse et sociale était apparu en Angleterre au XIVe siècle sous l'impulsion de John Wycliffe. Un sanctuaire improvisé voit alors le jour sur le site de l'exécution et le curé de l'église, All Hallows de Barking, mélange des épices aux cendres dans l'espoir de susciter une plus grande dévotion. Le parfum agréable, une odeur de sainteté, confirme la vertu du défunt. Les autorités londoniennes ripostent en transformant le lieu de pèlerinage en décharge, les hérétiques devant être associés à la puanteur des immondices. Ces odeurs étaient peut-être fabriquées, mais elles révèlent une conception des sens tout à fait différente de la nôtre. Au Moyen Âge, les connotations morales et spirituelles faisaient partie intégrante des sensations perçues. Interaction. On pourrait s'attendre à ce que l'étude des cinq sens à l'époque médiévale soit relativement simple, nos corps étant ostensiblement les mêmes puisqu'il n'y a pas eu d'évolution physiologique majeure entre le XVe et le XXIe siècle. Les hommes et les femmes du Moyen-Âge devaient par conséquent nous ressembler. Mais cette hypothèse néglige un facteur clé de la perception, car notre interprétation du fonctionnement des sens est en réalité culturelle. Quand je regarde quelque chose aujourd'hui, mon expérience n'a rien à voir avec celle de quelqu'un du bas Moyen-Âge. Qu'est-ce qui a changé? Pour le monde scientifique issu des Lumières, la perception obéit à un modèle fermé. Les organes sensoriels du sujet reçoivent des informations qui sont transmises au cerveau pour être interprétées. Au Moyen Âge, la perception était un processus plus ouvert, qui impliquait des interactions de l'objet perçu vers le sujet, mais aussi du sujet vers l'objet ou l'individu perçu, un processus à double sens. Si je passe la main sur mon bureau, je sens qu'il est dur et lisse, et peut-être chaud ou froid. Si j'étais assis là, au XVe siècle, mes sens auraient peut-être transmis vers le bureau des qualités physiques, morales et spirituelles. Il m'en aurait peut-être transmis d'autres. Si ce meuble avait été utilisé par une personne pieuse ou maléfique, c'était des qualités susceptibles d'habiter le bureau. Rien à voir avec la transmission d'informations à sens unique que l'on imagine de nos jours. L'expérience était bien plus riche et dans le monde médiéval, très attaché à la morale, le transfert de ces qualités variées revêtait une importance cruciale. Tous les sens étaient activés par le contact direct. Pendant le Haut Moyen Âge, on pensait que la vue, selon des idées néo-platoniciennes reformulées par saint Augustin, obéissait à la théorie de l'émission. Un rayon partait de l'œil vers l'objet avant de retourner vers l'œil. À la fin du Moyen Âge, la théorie de l'intromission avait pris le dessus. Ce que l'on voyait résultait de la lumière émanant de l'objet. Ces rayons créaient un contact physique direct entre le sujet et l'objet perçu. Les hommes et femmes, ordinaires du Moyen Âge, n'avaient pas besoin de connaître les détails des théories érudites de la perception et de la cognition. Mais il y avait pourtant des liens étroits entre ces théories et les croyances populaires sur les sens. Le bien et le mal, par exemple, étaient des qualités physiques susceptibles d'être transmises par le toucher. Observer un objet pouvait suffire à en tirer des avantages. Ainsi, l'élévation de l'hostie pendant la messe permettait aux fidèles de devenir meilleurs à la vue du pain consacré. Les reliques étaient parfois exposées dans des ostensoirs dans le même but. Le mal pouvait aussi être transmis par la vue. C'est ainsi que fonctionnait le mauvais œil. Le toucher pouvait de son côté apporter une force spirituelle et juridique. Les pèlerins fréquentaient donc beaucoup les sépultures des saints. Certaines tombes comportaient même une couverture pour permettre aux visiteurs d'y descendre pour se rapprocher du sacré. Prêter serment en posant la main sur un livre saint garantissait l'exactitude d'un verdict, du latin veredictum, la vérité dite. Le toucher apportait bien plus que la connaissance et le symbolisme. Transmettre des qualités morales et physiques était un aspect essentiel de la sensation. Sixième sens. Ces qualités étaient aussi valables pour les autres sens. Le son pouvait être bon ou mauvais. La voix de l'ange Gabriel fait venir l'Esprit Saint sur la Vierge Marie, et les enluminures médiévales montrent d'ailleurs l'Esprit passer par son oreille. L'hérésie se transmet par l'ouïe. Il n'était pas nécessaire de la comprendre pour être infecté. Entendre des paroles mauvaises suffisait. C'est pour cette raison que les recensions médiévales comportent parfois un sixième sens, la parole. Elle faisait à cette époque partie des « sens de la bouche », entre guillemets. Le goût était l'aspect entrant et la parole, l'aspect sortant. Cette interprétation morale de la perception persiste encore dans la langue et les traditions, comme en témoignent des expressions telles que « foudroyer du regard » ou « ne pas pouvoir sentir quelqu'un ». Ainsi, malgré le modèle fermé, censé, selon la science, régir nos perceptions, certaines croyances parallèles sont souvent ancrées dans notre passé médiéval. Quid du pouvoir des cristaux ou de l'aromathérapie? Les plats « faits maison » entre guillemets révèlent-ils non seulement le savoir-faire du cuisinier, mais aussi une partie de l'individu lui-même? Finalement, les hommes et femmes du Moyen-Âge étaient très différents de nous à de nombreux égards. Leurs sens les mettaient à la fois en contact direct avec autrui, avec le monde matériel, mais aussi surnaturel. Et les conséquences de ce contact, via la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et surtout le toucher, étaient un aspect crucial de leur vie. Pour les Londoniens du XVe siècle, les odeurs émanant du bûcher de Richard Weich confirmaient ces qualités morales, bonnes ou mauvaises, dont ils pouvaient eux-mêmes s'imprégner en visitant le sanctuaire. Article de Chris Woolgar, Chris C-H-R-I-S, plus loin Woolgar, W-O-O-L-G-A-R, publié le 28 avril 2016 au sein du Courrier international.